أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Qu'est-ce qu'on a traité la dernière fois, le verset ambigu, et on a terminé. Hein? Bon, c'est un sujet qui est interminable. Hein? De toute façon, c'est un sujet. Mais normalement, on a tout dit, je pense, hein, sur la question du verset ambigu. Je pense qu'on a, là, on a dit le grosso modo, hein, parce que ce sujet du verset ambigu sort à chaque fois qu'on passe par. La croyance, malheureusement, aujourd'hui, chez nos frères qui s'autoproclament donc salafis, ils se disent les spécialistes du hadith et tout ce que vous voulez, sunna, etc. etc. Quand on parle de croyance, malheureusement, chez eux, c'est les versets ambigus. Or, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, pour le Coran al-Karim, c'est-à-dire c'est des gens qui cherchent ces sujets-là pour faire la polémique, faire fitna. Parce que la croyance, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que les gens du salaf avaient peur de parler de ces sujets-là qui dépassent. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas ordonné, il nous a même interdit de penser à son essence. D'accord. Par contre, il nous a ordonné de penser à ses attributs. Ne voit-il pas le chameau, comment il a été créé, les cieux, la terre, etc., etc. Donc il nous renvoie pour voir ces créatures afin de découvrir ce qu'il nous parle de ses attributs, de sa volonté, c'est-à-dire la vue, la parole, la science, la volonté, la puissance, etc., etc. Les attributs qu'on a, c'est-à-dire ce monde-là, c'est un reflet de l'effet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et des saints noms divins. Mais faut, Inch'Allah. Donc il nous revoit de plus en plus. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal nous dit au Coran Karim, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent vraiment beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala, normalement, ce sont les savants. Pourquoi? Parce qu'ils découvrent la grandeur d'Allah Azzawajal. Celui qui travaille dans son laboratoire, il va, quand il fait son anatomie, etc., il va découvrir, subhanallah, l'œil seulement quand on va voir avec un spécialiste, il va nous faire l'anatomie de l'œil, comment il fonctionne. On peut rester des années à étudier qu'est-ce que c'est que ces nerfs, qu'est-ce que le reflet de la lumière, etc., etc. Comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait tout ça, le corps, comment il fonctionne, le sang, comment il sort, il rentre, il sort, il prend l'oxygène, etc., etc. On peut parler des années et des années sur la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que nous apprenons n'est qu'une goutte dans un océan de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc ce qu'Allah Azzawajal nous a autorisé de voir. Normalement, c'est cela dont nous devons parler, ou bien des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on parle de la foi et de la croyance, ce n'est pas en traitant directement le premier sujet, où est Allah? Qu'est-ce que c'est que ça? Et toi, tu es où dans cet univers? Ben, peut-être qu'il n'a jamais vu une carte géographique, il ne sait pas où il est. Subhanallah, où est Allah? Ben, écoute, toi, tu es où dans cet univers-là? C'est ça la chose importante. Donc, poser la question, où est Allah? En plus, moi j'ai entendu quelqu'un dire, c'est une sunna de poser cette question, puisque le prophète il l'a posé. Qu'est-ce que c'est que ça? Et quand il a la réponse pour lui, directement pour te qualifier, est-ce que tu es sunni ou bien ou non, tu arrives et tu dis, où est Allah? Ah, réponds, où est Allah? Ben, si tu ne réponds rien, donc tu es ignorant, tu ne connais pas. Si tu réponds, il te dit, écoute, le verset il est clair. Hein? Et, c'est-à-dire, le fait de dire au-dessus, c'est-à-dire quand on dit au-dessus, c'est pas le mot fauq, d'accord? C'est pour rapprocher le sens qu'on fait ce genre de traduction. Sinon, en arabe, chaque mot a sa spécificité. Dans la langue arabe, bien sûr, en français aussi, on a des mots qui ont leur spécificité. Le mot istawa en arabe, on ne trouve pas, c'est pas établi, c'est faux, d'accord? On essaye de rapprocher le sens. Donc, dire que la croyance musulmane n'est que ces sujets-là de polémique, c'est archi faux. Parce que nos pieux prédécesseurs renvoyaient, même les savants de Tawhid, ils renvoient la croyance à ce qui est réparti dans les différents versets du Coran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala nous renvoie à voir, à découvrir sa science, à découvrir sa sagesse, à découvrir sa puissance à travers sa créature. Afala yunduruna ila al-ibil. Donc, il nous renvoie à voir ces créatures. Une fois qu'on regarde ces créatures-là, le chameau, comment il est créé, comment il marche, etc., les cieux, comment ils sont élevés, son poteau, etc., là, on découvre la puissance, on essaie d'apprendre et on approfondit notre savoir pour le Coran Karim. Donc, les sujets à polémique, ce ne sont pas les sujets de la croyance musulmane. Ce sont des sujets qui font exploser la Ummah. Ce sont déchiqueter la Ummah. Ce sont des sujets de divergence, mais malheureusement, on s'est retrouvé dans un, c'est-à-dire, on est obligé de répondre. Parce que, passé un temps, ces sectes et ces groupes d'égarement, qui polémiquent, hein, qui alimentent la divergence, et qui sont, en fait, ce sont des sectes et des groupes, qui font partie d'un programme. Qu'ils veuillent ou non, ils sont manipulés. Ils font partie d'un programme qui sont faits pour lancer des sujets à polémique dans la Ummah, pour éclater la Ummah. Là, on est dans une situation, c'est-à-dire, soit tu rentres dans une confrontation avec eux, et tu dois répondre, puisqu'ils sont en train de faire de la fitna dans la Ummah. On voit les gens, comment ils sont complètement dans le désespoir, ils sont dans des croyances graves, ou bien tu laisses le sujet, et on le voit, comment des jeunes, etc., ignorants, comment ils sont embobinés par ce fitna-là. Donc, là, c'est-à-dire, il faut répondre avec science, avec sagesse, mais il faut être au-dessus de ce que ces gens-là nous taxent, d'égarement, de kafir, etc. Nous, il faut toujours aimer. Il faut toujours aimer les musulmans, d'accord, telle qu'elle soit, son appartenance, va dire, son courant, etc. Il faut apprendre aux gens qu'on fait tous partie d'une seule Ummah et que notre union fait la force. Et que notre divergence, elle reste scientifique. Et qu'on n'a pas le droit de lancer des égarements, ou bien de takfir, ou bien de tafsir, tebdir, ou bien faire rentrer les gens du paradis, rentrer les gens en enfer. Ce n'est pas notre rôle. Donc, ce qu'on a appris, ce qu'on apprend, on le transmet avec sagesse, avec amour, avec modestie, et laisser l'autre lui faire goûter cette science, surtout avec amour, et ne pas rentrer dans une polémique agressive avec lui. Parce que c'est ça le problème qui existe aujourd'hui. Et moi, je connais des chouyours, vraiment qui étaient des wahhabites, des grands chouyours wahhabites qui sont en Arabie Saoudite, qui sont devenus des grands savants ash'arites, sunnites, spécialistes, etc. Qu'est-ce qui les a transformés? Wallah, c'est pas l'argumentation, etc. Mais c'est le comportement de quelques chouyours soufis. Ils avaient un comportement avec eux exemplaire. Il y avait un, il nous disait, subhanallah, quand je me suis retiré du wahhabisme, j'ai découvert mon cœur. Avant, je n'avais pas de rahma, j'avais une pierre dans mon cœur, il était sec. Ils sont rien. Ni, ils pleurent jamais, ils ne sont pas d'amour envers les gens, etc. Il est agressif, il est, tu vois. Pour lui, la sunna, c'est il faut être dur. Ce n'est pas ça, la sunna. Qu'est-ce que tu veux être dur? Si la sunna, c'est être dur, l'islam n'aurait pas sorti d'Arabie. Hein. Ce sont des gens qui étaient pleins d'amour. Quand on voit un sahabi, il absorbe le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec son comportement, avec son visage, avec sa modestie. Il absorbe la personne. Les gens rentrent dans son cœur. Ils ont ouvert les pays avant qu'ils arrivent, ces sahabas-là. Ils entendent juste parler d'eux, ils disent, vous êtes les bienvenus. Marhaban bikum. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent leur comportement. C'était à l'époque où les Romains semaient la terreur sur terre. Voyez, en Égypte, ils les ont reçus. Parce qu'ils comparent quel est le comportement des Byzantins vis-à-vis des populations. Et quel est le comportement des musulmans qui donnaient? Ils donnaient, on est venu pour vous donner ce khayr, cet islam, mais ce n'est pas pour vous gouverner, c'est vous les gouverneurs, hein, nous vous transmet, voilà le code de la route, comment il faut fonctionner dans cette vie. Ensuite, c'est à vous de gérer votre situation, on n'est pas là, on n'est pas venu pour devenir des émirs sur vous, etc. C'est pour cela que vous allez trouver en Maghreb les gens qui sont devenus Tarq ibn Ziyad, etc. C'est des berbères, c'est des gens, c'est-à-dire c'est des maghrébins, d'accord? C'est des maghrébins qui sont devenus, ou bien Yusuf le Tashfin, etc., sont devenus des musulmans, c'est eux qui ont pris le flambeau, c'est-à-dire de transmettre l'islam en Andalousie, etc. Donc il faut faire très attention de ne pas tomber dans, limiter la croyance, le tawhid, quand on... C'est un sujet, on a parlé des sujets ambigus, hop, on pousse, on passe. Bien sûr, de temps en temps, quand il y a des questions qui sont poussées, parce que ces gens-là, ils vont passer leur temps à parler que des sujets à polémique. Moi, je ne les trouve pas, une fois je leur ai dit... Pourquoi vous ne parlez pas de l'héritage, du commerce, de questions? Pourquoi on ne vous trouve pas dans ces sujets-là, ou bien des actions, des obligations, de questions de finances islamiques, des questions... on n'a jamais vu un wahhabi comme ça et parler, écoutez, le problème du chômage aujourd'hui. Et tu ne trouves pas. C'est comme si lui, il est en dehors. Ben, c'est un problème qui existe, l'inflation, tout ce que vous voulez, la crise économique. parlant des problèmes que, ou bien de la vie sociale, talaq, zawaj, kada. Non. Que aïn Allah. Et toi, tu es où? Tu parles d'Allah. Parle de toi, sahbi. Tu es où? Il ne sait plus où d'autre cet univers-là. Enfin, il faut faire très attention, recadrer le débat. C'est-à-dire, c'est un gros problème. On essaye de faire dispersion afin que le musulman ne soit pas vraiment quelqu'un qui a un rôle à jouer de construction dans cette vie. Le musulman a un rôle de construction. Ce n'est pas un rôle de destruction. Faites très attention, ne pas tomber dans les manipulations, que ce soit dans des gens qui n'aiment pas l'islam, des médias, tout ce que vous voulez, ou bien des musulmans qui sont complètement manipulés, qui voient, ils sont carrés pour lui, être durs, c'est-à-dire la croyance pour lui, c'est des sujets polémiques, etc. Donc nous, le sujet des versets ambigus, on l'a traité pendant deux séances, on n'en parle plus. Mais bon, s'il y a quelqu'un qui a une question... Hier, j'étais amené à intervenir avec les frères Abofond sur une question. On soulève parce que, pourquoi? C'est qu'on vous ramène, subhanallah, il y a le danger. C'est qu'il y a ce qu'on appelle en arabe mouralatat. Mouralatat, c'est-à-dire, on te ramène un texte, on te dit, regarde, le hadith ce qu'il dit. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier tiers de la nuit. Lui, déjà, il l'a traduit. Hein. Le mot descend, déjà, il n'a pas le même sens de Yanzé. Alors celui qui écoute, il a peur, bien sûr, il veut suivre la sunna. Mais c'est le prophète qui dit, écoute, toi tu suis n'importe qui ou tu es le prophète. Donc à chaque fois, et c'est un message qui passe au niveau des gens qui ont un esprit simple, qui n'ont pas étudié, etc. Or, ils sont en train de responsabiliser, donner une tâche à un ignorant, de comprendre un hadith et de tirer un commandement. Or, c'est le rôle du savant de faire ça. Lui, normalement, il dit, écoute, moi je ne suis pas un savant. Tu me rapportes un hadith, moi, je vais demander au savant. Ah bon, tu suis le hadith ou le savant? Ben, je suis le savant, je suis désolé. Ben, c'est pas parce que je ne suis pas le savant, mais je suis pas le hadith, mais je suis un incapable. Moi, je suis pas sûr déjà si c'est un hadith ou non. Ce qu'il a dit, oui, une fois un cheikh, je me rappelle, ils lui ont ramené un livre de hadith. Regarde, cheikh, machin. Il a pris, il est imprimé où ce livre déjà là? La première chose, qui l'a imprimé? Dans quelle intention? Ce n'est pas parce que le professeur a dit un hadith qu'on doit le comprendre à notre façon. Ce n'est pas à nous. Nous, on doit écouter les ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit. C'est à eux de nous dire qu'est-ce qu'on doit comprendre du hadith. Comment on tire le commandement du hadith ou de verset. Déjà, il faut commencer par le verset, parce que les gens, directement, ils parlent du hadith. Il faut commencer par le verset. Donc, c'est un sujet clos. Les versets ambigus, on en a parlé. On a parlé de la version du salaf. On a parlé de la version du khalaf. On a dit les salaf, ils avaient du tafouir. C'est-à-dire... Ils comprenaient le verset comme ils se devaient parce que c'était révélé en leur langue. Et les khalafs, ils ont fait le ta'wil, comprendre dans un sens d'interprétation métaphorique. Pourquoi? Parce que c'était la fitna et les sectes et le groupe, la philosophie a commencé à rentrer dans la société musulmane. Et le problème il était clos historiquement. Jusqu'à ce que, avec la chute de l'Empire Ottoman, ce problème il revient. Pourquoi? On a fait chuter l'Empire Ottoman. Politiquement, il a fallu faire chuter tout ce qui tient la croyance et la jurisprudence, l'architecture, on va dire, et les piliers de pensée musulmane, c'est-à-dire de nous couper en quelque sorte de nos savants, etc. Donc, les références sont très importantes. Connaître qui sont nos savants et nos références, point de vue tawhid, point de vue fiqh, point de vue hadith, point de vue jurisprudence, tafsir, etc. C'est très important. Les références, que ce sont des gens qui appartiennent aux quatre écoles, tout ce qui est en dehors des quatre écoles, on le rejette. Les quatre écoles sunnites, bien sûr, on doit voir ce que les chiites ont dit, ce que les khawarij, mais c'est bien de se cultiver. Mais si tu n'as pas de repère, tu ne sais pas, c'est-à-dire quelle est la croyance sunnite ou bien le faire appliquer chez Ahl Sunna, tu vas te perdre. Parce que tu vas dans les super machins, tu vas entrer dans une librairie, c'est pas tout ce qui brille, comme dit, c'est de l'or. C'est pas tout ce qui brille, c'est parce que c'est un beau livre, etc., machin, etc. Même il est écrit par des chevaliers, n'importe qui. Mais il faut avoir des repères. Que les savants de référence sont très connus, historiquement. Historiquement. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tajtami'u ummati ala dalal. Ma communauté ne se regroupe jamais sur un égarement. Or, la umma, pendant 15 siècles, elle a accepté à adopter les quatre écoles. Point de vue fiqh et point de vue théologie, tawhid. Donc, sortir de cadre de quatre écoles, c'est faire face à une umma. Voilà. Je m'arrête là. Donc, le sujet des versets ambigus, khalas. Naam. Parce que, de toute façon, vous aurez toujours dans les mosquées des polémiques hein, de ce genre, vous les aurez. Il faut être bref, répondre avec sagesse, amour, avec argument. Vous avez les arguments, on en a parlé. Vous pouvez aller sur le site Islam, vous avez tous les arguments qu'il faut. Pour vous, déjà, pour comprendre. Et pour comment on comprend, vous avez tout ce qui est dalil, etc. Et ensuite, vous n'avez pas à... C'est-à-dire, on n'est pas obligé de convaincre l'autre. Hier, on était dans une fête de Maulid, où j'ai donné une conférence. Fête Maulid, subhanallah, yani, des gens, on a une année... On est content. C'est-à-dire, on donne à la Rasoul sallallahu alayhi wa sallam notre amour, ne serait-ce une journée, pour son Maulid. Et à la fin, il vient, il me dit... Salam alaikum, excuse-moi... le Maulid, il est bid'a ou non? Je dis non, c'est pas bid'a. Il dit, il y a des gens qui disent c'est le bid'a. Je dis, c'est eux la bid'a. Bon. Il dit, le prophète n'a pas fêté. Chouf. Le prophète n'a pas fêté. Toi, tu es qui pour dire le prophète n'a pas fêté? Hafiz, muhaddith, imam, osoli. T'as quoi? Je veux te demander, récite la fatiha, peut-être tu vas faire 100 fautes. 100, c'est-à-dire 200, 300, peut-être. Je dis non, le prophète, il a fêté. Ah bon, le prophète, il a fêté, oui. C'est pas moi qui dis. L'imam Suyuti ibn Hajar al-Asqalani, ils disent, un sahabi a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi tu jeûnes le lundi à Rasulullah? Il a dit, je jeûne le lundi parce que c'est une journée dans laquelle je suis né. L'imam Suyuti, il a dit, ça c'est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fêtait le maulid. C'est pas moi qui lui dis, oui, imam Suyuti, maintenant tu as un problème avec l'imam Suyuti, pas avec moi. L'imam ibn Hajar, il dit la même chose. L'imam ibn Kathir, il dit la même chose. L'Hafidh ibn Dihya, il dit la même chose. Il a Umma, il dit la même chose. Donc tu as face à 15 siècles de civilisation et une Umma qui vient de Tanja jusqu'à Jakarta. Va régler ton problème avec eux. C'est ça le problème. Ils vont voir la personne, le prophète n'a pas fait. Comment ça, toi, tu lances un hukm, le prophète n'a pas fait? Il faut être un alim, un hafid, pour dire quelque chose, pour confirmer quelque chose. C'est très important. C'est-à-dire, on jette comme ça des sujets à fitna, à polémique. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire, comme si on n'a plus de problème dans notre umma, il reste que le maulid, c'est un problème, c'est une bid'a. Ah ben, il y a pire que les bid'as. Hein. Les bid'as, bon, si elles existent, il y a pire. Le sous-développement que vit le monde musulman, c'est une grande bid'as. Donc, il faut déjà qu'on sorte du sous-développement, qu'on pense comment, économiquement, technologiquement, qu'on sorte déjà de ce développement-là, parce qu'on dépend de l'Occident, qui nous donne la nourriture, nous donne ceci, cela. C'est pas parce qu'on a du pétrole et qu'on le vend qu'on produit rien. Déjà, il faut qu'on commence à pouvoir la capacité de nous alimenter par nous-mêmes. Déjà. Hein, qu'on a ce qu'on appelle une économie fermée, etc. etc. Là, Alina. Sallallahu alayhi wa sallam. Sur les miracles, on en a parlé. On a terminé les miracles. Les anges, on a parlé. Les miracles, on a parlé. Non, vous êtes en retard. On a parlé du dernier sujet, c'est les versets ambigus. Avant, oui, mais le verset ambigu, c'est un sujet. Oui, s'il y avait le jugement dernier, ensuite les versets ambigus. Non. Je vais parler de la question des Sahaba aujourd'hui. Wa awwil at-tashajjur alladhi warad in khutta fihi wa ajtanibda al-hasad. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith Ashabika an-nujum biqayyihim iqtadaytum ihtadaytum. Mes compagnons, ce sont comme des étoiles. Laquelle? Parce qu'avant, les gens, pour se repérer dans le désert, ils regardent l'étoile, ils disent hop, allez, cette étoile-là, ils la connaissent, donc je dirige. À partir des étoiles, ils connaissent. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme des étoiles. N'importe quelle étoile pouvait vous guider, c'est-à-dire vous prenez n'importe quel sahabi. Alors, il nous est interdit de dire du mal des sahabas. C'est très important. On est qui pour parler de ça? Déjà, c'est interdit de dire du mal de n'importe qui. Hein? Soit musulman, pas musulman, tu n'as pas le droit de dire du mal. Alors, tu te dis. Alors, que dire des sahabas? Allah subhanahu wa ta'ala yaqul man 'ada li waliyan faqad adantahu bil harb. Celui qui se déclare qui fait du mal à un de mes saints, de mes proches, je lui déclare la guerre. Et les sahaba ce sont awliya Allah. On peut pas dire les sahaba c'est pas dire awliya Allah. Ensuite on va parler des erreurs des sahaba. C'est des êtres humains bien sûr, ils ont fait des erreurs. Mais quelle est la position des savants sunnites vis-à-vis des erreurs des Sahaba? Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les compagnons se sont réunis, se sont mis d'accord que la khilafa serait à Sidna Abu Bakr Siddiq, y compris Sidna Ali ibn Abi Talib qui était présent. Au début, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu une discussion. Qui va remplacer le prophète? Je deviens le calife des musulmans. Ce n'est pas une tâche facile. Il y en a quelques-uns, ils ont dit, bon, il y a l'Ansar, il y a le Muhajirin, un représentant des Ansar, un représentant des Muhajirin, seront deux, donc... Sinon, Omar ibn al-Khattab, il a levé la main, il a dit, écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. Il n'a pas parlé de lui, il a parlé de Sina Abu Bakr Siddiq. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de Sayyiduna Abu Bakr Siddiq dans le Coran al-Karim. Qui parmi vous, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de lui dans le Coran al-Karim? Dans un contexte de ma'iyya. C'est-à-dire, wa sohba. C'est-à-dire, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a reconnu sa sohba au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est le compagnon. قال لصاحبه لا تحزن il a dit à son compagnon personne qui a beaucoup de sidiq. Qui parmi vous le professeur sallam a ordonné quand il était malade de faire la prière et tous les musulmans derrière lui sunna beaucoup de sidiq. Qui a voyagé avec le nabi sallam sallam dans les moments très difficiles Abu Bakr Siddiq. Qui a vécu du début jusqu'à la fin tous les jours, chaque minute, chaque seconde, avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en donnant tout son argent à Abu Bakr Siddiq. Qui parmi nous, le prophète en a parlé de lui, en disant, tout ce que vous avez donné, vous, à l'islam, je vous ai rendu vos récompenses. Sauf un, personne ne lui rend sa récompense, c'est Abu Bakr Siddiq, Allah Azza wa Jal seul qui lui rendra sa récompense. Il leur a dit, celui qui a tout, il leur a cité beaucoup, beaucoup de qualités, celui qui a ces qualités-là, Bismillah, yata fada, c'est lui le calife. Ils ont reconnu, ils ont dit, personne ne peut avoir ces qualités-là. Donc, ils ont fait la bay'a. Ils ont reconnu que le calife serait Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Après la mort de Sayyidina Abu Bakr Siddiq, déjà, à son époque, ce n'est pas toutes les tribus arabes qui se sont converties. Se sont converties par conviction. Les uns se sont convertis par des intérêts politiques, l'autre par des intérêts économiques, l'autre pour être tranquille, etc., etc. Il y avait beaucoup d'hypocrites. Avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous ces hypocrites-là, hop, ils sont sortis. Ils sont sortis, ils ont commencé à dire, les premiers ont dit, bah, nous on donné l'aumône au prophète, le prophète il est mort, on ne donne pas l'aumône. Déjà, allez hop. Donc ils ne reconnaissent pas la validité de la zakat. Ankaruha. Ce n'est pas qu'ils ont dit, on reconnaît, mais je le donnerai après. Non, ils ont dit, pas de zakat. Sayyidina Abu Bakr Siddiq, qui était connu, c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de clément, quelqu'un de compréhensif dans sa vie courante, avec le sahaba, etc. Sayyidina Abu Bakr Siddiq, qui est connu par quelqu'un de très dur, ferme, etc. Dans ces moments difficiles où l'islam a besoin de positions fermes, Sidna Abu Bakr Siddiq a pris une position ferme et devenu quelqu'un de dur sur la question qui concerne Hukm Allah subhanahu wa ta'ala. Sidna Abu Bakr Khattab lui a dit non, on va essayer de négocier avec ces gens doucement, le prophète vient de mourir. Sidna Abu Bakr Siddiq lui a dit dans la jahiliya, tu étais Omar ibn Khattab, machin, maintenant en islam tu deviens mou. Il l'a remis en place. C'est maintenant qu'il faut être ferme. Il a déclaré la guerre à ceux qui ont remis en cause les piliers, un des piliers de l'islam. Il les a remis en ordre. Hurub al-Ridda, les guerres d'apostasie. Après la mort de Sidna Abu Bakr Siddiq, les sahabas se sont réunis. Donc ils se sont mis d'accord sur la khilafa de Sidna Omar ibn al-Khattab. Mais il reste des poches de ces gens qui sèment la fitna. Ils sont dans la société musulmane. Des fois, ils apparaissent en tant que des gens qui se disent musulmans, etc. Moi, j'ai entendu Cheikh Al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, nous dire un jour. Parce que les sujets de polémique là dont je parlais tout à l'heure, Si ce sont des sujets qui ne datent pas d'aujourd'hui. Ce sont des sujets pour faire éclater la Oumma qui ont toujours existé. Et que les savants, ils ont toujours répondu à ces sujets-là. Un jour, Cheikh Al-Ghazali, qui est un grand monument de l'islam, mort, rahmallah, un grand savant, tellement ils lui ont fait de mal, moi j'achetais à une de ses conférences, ils ont commencé à le polémiquer avec lui. Vous savez, quand un savant, il plein de science, il se blesse facilement quand tu as des gamins, je dis gamins même s'ils ont 30 ans, 40 ans, qui sont manipulés et qui lui disent des absurdités en lui critiquant des grands savants reconnus de la Oumma, etc. Mais on l'attaque en lui personnellement. C'est ce qu'il a dit. Voilà, il a dit des choses un peu dures. Il leur a dit, vous êtes la descendance, même si vous n'êtes pas la descendance dans le sang, mais la descendance point de vue idéologique, de ceux qui ont tué Sidna Omar ibn Khattab, de ceux qui ont fait la guerre à Sidna Abu Bakr Siddiq, de ceux qui ont tué Uthman ibn Affan. Vous êtes le résidu de ces gens-là, qui ont semé la fitna, c'est-à-dire, historiquement, vous faites la fitna, la même fitna que ceux qui vous ont précédé, parce que c'est une idéologie de ce qu'on appelle les Khawarij. Non, je vais en arriver. Ce que ça veut dire, les Khawarij. C'est une secte, un groupe. Alors, après la mort de Sidna Omar ibn Khattab, vous savez très bien qu'il a été poignardé, Sidna Omar ibn Khattab, il a été tué, Sidna Uthman ibn Affan, il a été tué aussi, par c'est-à-dire, ces petits groupes-là. Après la mort de Sidna Uthman ibn Affan, il y avait Sayyidina Muawiyah qui était un wali du côté de Sham, qui est de la famille de Sayyidina Uthman. Donc les Sahaba, ils se sont réunis, ils ont dit, bon, on désigne Sayyidina Ali ibn Abi Talib, qui serait calife des musulmans. Sayyidina Muawiyah, il avait une grande armée avec lui, quelques Sahaba, mais il était lui le chef, il a dit, on ne parle pas de la question. Il n'était pas contre que Sayyidina Ali devienne un calife. Mais il a dit, cette question-là, on la reporte jusqu'à ce qu'on châtie ces gens-là qui ont tué Uthman. Il faut qu'on règle ce problème-là maintenant. Bien sûr. Il a tort sur cette question-là. Tous les historiens sunnites le disent. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va le déclarer égaré au kafir. Attention. Ça, c'est sahabi. Sa sœur, elle est mariée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est considéré comme un ange des musulmans. Khal Moumin. Il écrivait le Wahid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très important. Le prophète ne mettait pas n'importe qui pour écrire le Wahid. Alors, il y avait un grand problème entre Sayyidina Ali, la majorité des sahabas, on va dire presque tous, qui étaient avec lui, il devenait calife des musulmans. Il régnait. Avec toute sa science, sa sagesse, Sayyidina Ali, c'est pas n'importe qui. Lire l'histoire, qu'est-ce que c'est que Sidna Ali? Nabi Sallam yaqul, Ana madinatul ilmi wa aliyum babuha. Je suis une cité, une ville de science, sa porte c'est Sidna Ali. Hadal hadith, quelques pseudo-savants, ils ont commencé à critiquer les grands imams Rimari du Maghreb, etc. Ils ont ramené, c'est Ahmed Rimari, ils ont ramené tous les hadiths qui le renforcent, ce hadith-là. D'autres savants, ils ont dit ça, c'est une preuve que les Toloq soufis, tout se passe par Sidna Ali, c'est lui la porte pour arriver au professeur. Mais effectivement, plein de Toloq passent par la majorité, sauf quelques-unes qui passent par Sidna Bouksadir ou bien Sidna Bouksadir. Sidna Ali, il est devant un problème. En face, tu as des musulmans, Sidna Muawiyah. Et tu as, c'est-à-dire, on a au fait deux armées musulmanes qui vont se confronter même. Il y a eu une mokaya, ça s'appelle mokaya al-Jamal. Il y a eu même des morts. C'est une fitna, une grande fitna. Et le prophète, on en a parlé de cette fitna. Celui qui vit parmi vous verra. Il a parlé aussi de son fils, Ibn Hada, de son petit-fils, Hassan. فإنه سوف يصلح بين طائفتين كبيرتين من المؤمنين. Mon petit-fils là, Hassan, il va arranger entre deux grands groupes musulmans. Le prophète a dit deux grands groupes musulmans. On avait des kharijites, khawarij, qui ont une idéologie, une croyance, que c'est eux le cœur même qui bouffe, on va dire, c'est une gangrène qui mange le corps de l'islam depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui. Mettez deux traits rouges sur le mot khawarij, les kharijites. C'est eux, c'est une gangrène qui bouffe le monde musulman. Des fois, il devient fort, des fois, il s'affaiblit, des fois, mais ils prennent de l'ampleur, etc. Leur idéologie, leur croyance, elle est basée sur une chose. Plusieurs choses, mais la chose la plus importante, c'est que celui qui fait les grands péchés, c'est un mécréant. Celui qui fait les grands péchés, hop, c'est un mécréant. Il y avait un musulman et un non-musulman. Ben, au fait, il y avait deux musulmans. Quand ils rencontrent un musulman, t'es pas un khariji, t'es pas fait faire. Alors, l'autre, c'est-à-dire, si tu fais pas, si tu rends pas Sina Ali kafir, ils te disent alors tu es mécréant. Il faut que tu rends tout le monde mécréant que eux. On le voit aujourd'hui. On le voit. Il y a des gens qui te disent, tel, il est mécréant ou non. Tu dis, ah, moi, genre, les gens, mais, ah, tu le rends pas mécréant, alors tu crois mieux. Allez, hop, tu es mécréant. Les gens, ils disent ça. Et là, subhanallah, ils ont attrapé deux musulmans. Là, il leur a dit, moi, je suis musulman. Alors, Ali, c'est un kafir pour toi, Mouawiyah. Il a dit, non, moi, je rends personne kafir. Allez, hop, ils l'ont tué. Tu ne rends pas kafir, donc tu es toi kafir. Allez, hop, ils l'ont tué. Le deuxième, pour échapper à leur délire, il leur a dit, moi, je ne suis pas musulman. Il a dit, je ne suis pas musulman. Il a dit, non seulement je ne suis pas musulman, mais je demande votre protection, puisque le Coran nous dit, « Wa in ahadun min al-mushrikin istajarak fa ajilhu. » Si un de ceux qui ne sont pas musulmans vient en votre protection, protégez-le. Donc ils lui ont dit, il n'y a pas de problème, tu es sous notre protection, machin. Donc ce qu'il est là, il est resté sain et sauf. Donc un kafir, ils l'ont protégé, il n'y a pas de problème, musulman, il l'a exécuté sur place. Pour vous dire le délire de ces gens-là. Non.
C'était quoi le reproche qu'il faisait à
Ali? Le reproche qu'il faisait à Sidna Ali, c'est qu'eux, ils considèrent que Sidna Ali n'avait pas le c'est-à-dire, là, c'est pas lui la référence de ni Sina Ali ni Sina Muawiyah. Pour eux, ils voulaient présenter leur représentant à eux, selon leur idéologie à eux. D'accord? Donc, ils sont contre Sina Ali, ils sont contre Muawiyah. La preuve, ils ont dit, pour que cette confrontation entre Sina Ali et Muawiyah cesse, ils ont désigné comme des gens de. Ouais, il va te faire un attentat suicide. Enfin, c'est pas un attentat suicide, mais il va tuer. Parce que le calife avant, c'est lui qui priait Salat Sobh, Sidna Ali, c'est lui qui prie Salat Sobh et les gens derrière lui. Ils ont désigné un qui va tuer Muawiyah, un qui va tuer Sidna Ali. Sidna Ali, il est sorti Salat Sobh ce jour-là. Donc il a été tué par ce monsieur, ils l'ont attrapé. Sidna Muawiyah, ce jour-là, il n'est pas sorti. C'est son chef de la police qui a fait la prière, donc l'autre, il l'a exécuté. Il a cru que c'était Sidna Muawiyah. Après la mort de Sidna Ali, celui qui. Bon, je ne parlerai pas de Sidna Hussein, qui est le petit-fils aussi du prophète Hassan, qui a été exécuté et tué d'une façon grave, avec 70 des gens de Ahl al-Bayt, des gens de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il est allé faire confronter ces gens-là, qui étaient des vraiment des impies, même s'ils se disaient des musulmans, subhanallah, qui est-ce qui va confronter le petit-fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec une armée de 70 personnes, contre 1000 ou 2000, et que tous, c'est de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui est leur chef? C'est Sina al-Hussein. Donc ils ont été décapités jusqu'au dernier, ils ont été tués. D'ailleurs, il y avait un, c'était des gens d'Irak. Il a fait la même année, il a fait un hajj, il a rencontré un savant, c'est le ulama de l'époque, ils avaient la rage contre ces gens-là, de cette région-là, qui ont tué Sina al-Hussein. Et lui, vous savez que pendant le hajj, on n'a pas le droit de tuer des petites mouches, des petites bêtes quand on est en ihram. Il est venu voir un alim. Il lui a dit, pendant ihram, est-ce que quand j'ai tué une mouche, qu'est-ce qu'il me faut? Il a dit, tu es d'où? Je suis d'Irak. Il lui a dit, vous avez tué le Hussein et tu vas demander une mouche. Vous avez tué le Hussein et tu viens demander une mouche, est-ce que c'est autorisé? Donc, après la mort de Sidna Ali, c'est son fils Al-Hassan qui a été désigné. Je suis en train d'abréger, hein, il y a beaucoup de détails, j'en passe. Sidna al-Hassan, il a été désigné, il avait une armée beaucoup plus forte que celle de Muawiyah. Et que la majorité des sahaba étaient avec lui. Beaucoup plus forte. Il est resté 6 mois en tant que... il avait le pouvoir. Mais Sidna al-Hassan, il a dit, afin de préserver le sang des musulmans, pour qu'il n'y ait pas confrontation entre les musulmans, je remercie ceux qui ont désigné en tant que calife, etc., etc. Il est sage, quelqu'un de, il a tout. Il a les sahaba derrière lui, il a la sagesse, il a la science. Il a dit, je ne rentre pas dans une confrontation sanguine entre musulmans. Moi, je fais bay'a, je reconnais la khilafa de Muawiyah. Il sera désigné en tant que calife et on en termine avec ce problème-là. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est réalisé que Sidna al-Hassan arrangera la question de... Et ça, c'est une réponse aux chiites qui disent que Muawiyah, il est égaré, qu'il a fait le machin, etc. Al-Hassan, il a fait la bay'a, Sidna Muawiyah. Et que c'est faux, attention, si vous avez trouvé dans les livres que Muawiyah ordonnait aux gens d'insulter Sidna Ali al-Manabr, c'est faux. Attention. Alors, Sidna Muawiyah prend le pouvoir. C'était un quelqu'un, Muawiyah, c'est un grand politicien. D'ailleurs, il a inventé ce qu'on appelle Sha'ara. C'est-à-dire, Sha'ara, c'est le... Comment on dit ça? Un cheveu, le cheveu de Muawiyah. C'est-à-dire, ça c'est une théorie, ça est devenu après une théorie dans la science politique. C'est-à-dire, ses cheveux, c'est comme si la population, elle tient un cheveu, lui le gouverneur, il tient un cheveu. Si la population, elle lâche un peu, lui, il tire. Si la population, elle tire, lui, il lâche. C'est une politique, c'est-à-dire entre le gouverneur et les gouvernés. C'est-à-dire, est-ce qu'il va les serrer ou bien les lâcher, tu vois? Quand eux lâchent, lui, il serre. Quand eux, ils serrent, lui, il lâche. Donc, alors, Muawiyah, à son époque, il y avait l'islam, s'est propagé, il a pris de l'ampleur, etc., etc. L'erreur qu'il a fait, c'est une grave erreur, quand même. C'est de transformer la khilafa, qui était par concertation, qui est-ce qui devrait être désigné le plus compétent, etc., comme dit Ibn Khaldoun, au mulk, ça devient royauté. C'est-à-dire, dorénavant, ce ne sera pas par concertation, ce sera mon fils qui devient roi. Voilà, il n'y a rien à voir, circuler. Donc ça, c'était une erreur que lui reprochent tous les historiens musulmans, etc. Donc il a transformé la khilafa au mulk, comme dit Ibn Khaldoun. C'est-à-dire, c'est son fils Yazid, qui, alors là, lui, qui n'a rien à voir avec Muawiyah. Mais Muawiyah, c'était un sahabi reconnu, etc. Bon, Yazid, il était très critiqué, en fait. Yazid, c'est un fils, limite il prie, hein, c'est-à-dire, on va dire, limite il prie, sans parler de ce qu'il faisait, des graves choses qu'il faisait. Donc, il y avait une khilafa dont le prophète a parlé, ce qu'on appelle khilafa Rashida, qui commence à l'époque de Sidna Abu Bakr, qui termine avec Sidna Ali ibn Abi Talib, bien qu'il y a eu parmi les Amawiyyin, c'est-à-dire Sidna Omar ibn Abdel Aziz, qui était une exception, qui n'a rien à voir avec c'est-à-dire la conception, la philosophie, c'est-à-dire, il était considéré comme un calife, bien qu'il est Amawite, mais qui a les mêmes caractéristiques, tellement il était juste que les Khulafa Rashidin. Il y a des savants, ils ont dit qu'il fait partie des Khulafa, bien qu'il n'est pas dans la même période. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un long hadith, il a parlé de toutes ces étapes de la gouvernance musulmane qu'elle va passer. Takunul khilafa tufikum rashidatan thumma mashallah azza wa jalla thumma takunu mulkan azud thumma takunu hukman jabriyan ila ghayrihi thumma takunu khilafatan. C'est-à-dire que le professeur a parlé des différentes étapes dans un long hadith où la khilafa, effectivement, elle sera khilafa rashida. Donc de Sidna Abou Bakr jusqu'à Sidna Ali. Ensuite, ça devient, c'est-à-dire, royauté, Mulk Jabari, c'est-à-dire, sorte de royaume dictatorial. Ensuite, ça va durer, ensuite, ça va devenir une sorte de républicain, présidentiel, etc. Donc il a parlé de tout cela, le professeur. Mais il a parlé à la fin, ça va revenir comme elle était au début, une khilafa, donc, à la minhaj al-Nubuwa, comme, khilafa Rashida, comme l'a voulu le professeur. Alors, ce qui nous intéresse, nous, la chose la plus importante, c'est les divergences qu'il y avait entre les sahaba. Il y avait des divergences? Oui, il y avait des divergences. Il y a des sahaba qui sont confrontés? Oui, il y avait des sahaba. Et il y avait des morts? Oui, il y avait des morts. Quelle est notre position? C'est de ne pas rentrer dans ce genre de polémique pour insulter un sahabi au détriment d'un autre ou bien les critiquer. Tous les grands savants, ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a préservés d'y participer avec nos épées, dans ces grandes fitna, on préserve nos langues de rentrer et de dire, parce que tous le professeur sallam a parlé du bien d'eux. Ensuite, les erreurs qui ont été commises, le hukm, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui juge, c'est pas nous. Nous, on n'a pas le droit de juger les gens simples qui sont à notre niveau, alors que dire des sahaba. Donc les sahaba, ils ont dit, faites attention, ne tombez pas dans le piège des chiites, qui, soi-disant, par amour à Sidna Ali, puisqu'ils sont partisans de Sidna Ali, ils vont insulter tous les autres qui sont de l'autre côté. Talha, Zubayr, Muawiyah, Aisha. Donc ils vont les traiter de... Je sais pas, c'est quoi. Moi, j'ai entendu un chiite dire des choses. La ilaha illallah, j'ai senti la terre trembler. Je ne pouvais même pas vous dire ce qu'il dit de Sidna Abou Sadiq, ou bien Sidna Abou Khattab, ou bien Sidna Abou Affan, ou... D'accord. Salam ala Rasulillah. Na'am. Ah, ils étaient partout en Médine, à la Mecque, surtout en dehors. Ils étaient surtout en dehors. Parce qu'ils ont essayé d'établir une sorte de un petit gouvernorat entre eux, etc. etc.
Au fond. C'est des Arabes à la base.
À la base, c'est des Arabes, bien sûr. Mais tous ces courants, les Khalidjites, les chiites, Alors, ces grands courants, Khawarij ou Shia, à l'origine, c'était des courants politiques, mais avec l'évolution du temps, ils ont pris ce sont devenus des sectes idéologiques. Mais leur origine, c'est politique. D'accord ? Mais avec le Kabbalah chiite. Ensuite, ils ont une idéologie, une croyance, une jurisprudence spécifique à eux. D'accord ? Contrairement aux Mu'tazilites, qui sont à l'origine une secte et un groupe de théologie, mais qu'après, ils ont pris une tournure politique. Parce que les Mu'tazilites, c'est une secte, c'est un groupe qui donne la rationalité, l'argumentation rationnelle, l'analyse, en priorité par rapport au texte. C'est-à-dire, ils raisonnent avec l'intellect, avec l'aql, tout ce qui concerne la croyance. Ils disent par exemple que les croyants iront au paradis, que les mécréants iront en enfer. Ils utilisent la logique. Et ceux qui sont ni croyants, c'est-à-dire ceux qui, les petits enfants qui meurent avant d'atteindre l'âge de la puberté, les fous, ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'islam, donc ces gens-là, ils sont ni en enfer, ni au paradis, ils sont dans une station entre les deux stations. Une terre qui n'est ni enfer ni paradis. Ils utilisent la raison. Or ça, c'est complètement faux. Les savants sunnites disent, celui qui meurt en tant qu'enfant, avant d'atteindre l'âge de la puberté, il est fou, tous ils iront au paradis, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Au fond. Et ceux qui n'ont jamais entendu parler d'islam, les divergents, ils ont divergé, et les savants, ils ont divergé sur leurs questions en trois avis différents. Il y en a ceux qui disent qu'ils seront au paradis, il y en a ceux qui disent Allah subhanahu wa ta'ala le renvoie au jugement dernier, un prophète pour porter hujja, c'est-à-dire une preuve sur eux ou pour eux, comment ils vont se comporter. D'autres disent, Allah subhanahu wa ta'ala sait à l'avance si un prophète leur a été envoyé, comment serait leur position. Mais bon, les Mu'tazilites, donc c'était à l'époque de l'imam al-Hassan al-Basri, qui était un élève de Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Il y en a des gens qui disent que al-Hassan al-Basri n'a pas... appris de Sidna Ali ibn Abi. Non, c'est faux. Il a appris de Sidna Ali ibn Abi Talib, bien qu'il était très jeune, mais il était un de ses élèves. Il a appris beaucoup de choses de lui. Il était très jeune. Il y avait un de ses élèves, de grand tabiri, les tabiri, c'est les élèves des sahaba. Ce grand tabiri, c'est Al-Hassan al-Basri, il avait un cercle al-Basra de sciences, de renseigner, beaucoup de choses. Un de ses élèves, il s'appelle Wasil ibn Atta. Wasil ibn Atta. Ce Wasil ibn Atta, c'était quelqu'un, subhanallah, vous aurez toujours, historiquement parlant, quelqu'un qui va se croire intelligent et qui se dit, je suis au-dessus de ceux qui m'ont précédé. C'est pour ça que les soufis, ils ont quand même une qualité très importante. Ils ont un garde-fou. Tu dis attention et un garde-fou. Fais attention à ton ego. Parce que la raison, elle peut te conduire au dérapage. Mais quand tu as toujours fait attention à l'ego, ne te dis pas que tu es plus intelligent. Attention, il faut toujours se mettre petit. Allah subhanahu wa ta'ala fera de toi un grand. Mais si l'ego, tu lui laisses une petite porte, hop, il va sortir, il devient grand, il te détruit. L'ego, elle est pire que 70 shaitans. Le plus grand voile qu'on a entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'ego. Le premier péché qui a été commis dans l'histoire de la création, c'est à cause de l'ego. Shaitan, qu'est-ce qu'il a dit quand Allah azza wa jalla a ordonné à l'homme, à tous les anges, y compris Iblis, de se prosterner à Adam, prosternation de reconnaissance, qu'il est meilleur. Tous ils se sont prosternés, sauf Shaitan, qu'est-ce qu'il a dit? Anna, moi. Il a dit, moi, je suis meilleur que lui. Anna khairamina. Donc il a dit, Anna. C'est son ego qui a parlé. Donc il faut faire attention. Donc quoi, sur le plan il a dit, je suis intelligent. La raison, elle a une grande place quand même. Donc il a fait un petit cercle. Il a dit, il a fait une méthodologie qui dit que, contraire à ce que le Hassan al-Basri enseigne et les sunnites, que nous devons donner la priorité à l'analyse rationnelle. Ensuite, on va voir le hadith du verset, ce qu'il dit. On va donner une interprétation au verset pour qu'il s'adapte à la raison. Or, c'est le contraire chez les sunnites que se passe. C'est-à-dire, nous acceptons ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit à travers le Coran et la sunna authentique, et nous utilisons la rationalité et l'argumentation rationnelle et l'intellect pour argumenter ce qui nous a été révélé. Parce que le monde de l'au-delà, la raison ne peut pas avoir accès. On est bien d'accord. Le raïb. Sinon, il n'y aura pas de prophète. Pourquoi? Parce qu'avec la raison, on peut y arriver. Non. La raison, elle est là pour comprendre et soutenir, argumenter le texte. Donc, Sayyidina al-Hassan al-Basri, quand il avait vu que cet élève s'est marginalisé, il a fait un petit groupe, il a dit en arabe, i'tazalana wasil. Wasil, i'tazalana. Il s'est marginalisé, il nous a quittés, il a fait un petit groupe. Donc, à partir de là, on les a nommés les Mu'tazila. Donc, leur origine, c'était idéologique. Ensuite, ça a eu une portée. Bon, quand ils sont devenus forts, ils ont pris le pouvoir. Le calife et les Mu'tazilites, le policier, le juge sont devenus les Mu'tazilites. Et vous pouvez trouver des Mu'tazilites chez les Ahnaf, chez les Shafi'ites, pas chez les Malikites en tout cas. Il n'y a pas de Mu'tazilites, mais point du fait qu'on peut les trouver dans. Donc, ce n'est pas des Ahnaf qui sont devenus Mu'tazilites, ce n'est pas des Shafi'ites qui sont devenus Mu'tazilites, ce sont des Mu'tazilites qui ont adopté le calife ou bien le Shafi'ite. D'accord? Très important. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est la question des Sahaba. Donc, ces sectes-là et groupes, le prophète Sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith qu'il va y avoir 73 groupes avec discussion sur l'authenticité du hadith, etc. Mais on a assisté historiquement que les chiites, qui sont allés un peu très loin quand même, ils ont tapé fort. Ils ont inventé des trucs extraordinaires que, bon, on a dit au début, ils avaient une portée politique, mais au fur et à mesure du temps, ils ont inventé beaucoup de choses, que les imams, qu'eux considèrent comme des douze imams, ne se trompent pas, et que toujours il faut y avoir un imam qui maçon, ça ne se trompe jamais, d'accord, et qu'ils ils insultent les sahabas, etc. Donc, ils se sont, eux, éclatés en plusieurs groupes. Donc, il y en a les imamites, les aïdites, etc. Il y a des groupes qui sont acceptés par les sunnites, c'est-à-dire ils ne sont pas considérés comme des mécréants. Par contre, ils ont des petits groupes qui sont considérés comme mécréants. Pas un groupe qui te dit Sina Ali, Sina Jibril s'est trompé de message, au lieu de donner le message Sina Ali, il a donné le professeur, c'est n'importe quoi. Un ange ne peut pas se tromper, hein, je suis désolé. Ou bien ils ont considéré Sina Ali comme un dieu. Ils ont dit, t'es dieu. Il a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il les a même, Sina Ali, il les a brûlés, ces gens-là. Il a dit, justement, c'est Allah qui brûle, t'es dieu. Donc, c'est des sectes qui sont apparus à travers l'histoire musulmane. Les Khawarij aussi. Les Mu'tazilites aussi. Les Khawarij aussi, ils ont pris. Les Khawarij, il y a plusieurs groupes pour les nommer. Il y a Sofria, Najadat, Azariqa, et les Badia et Rivalika. Donc, tous, ils ont des croyances, mais ils sont d'accord sur plusieurs principes. Parmi les sectes des Khawarij, on a le Karamiya. Karlamia, qui a une grande ressemblance avec les Wahhabites aujourd'hui. Ça s'appelle Karlamia. Qui donne il transforme. C'est-à-dire pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un corps. D'ailleurs, vous allez le trouver dans les écrits sans nommer, pour ne pas sans nommer les chouyours qui existent aujourd'hui. Tu dis, écoute, le fait de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de bouche, n'a pas de lèvres, n'a pas de nez, n'a pas de ceci, n'a pas d'organe, etc. Il ne faut pas dire ça, il n'a pas. Il ne faut pas dire qu'il l'a. Parce qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, « Laïsa ka mithlihi shay'un wa wassami' al-basir » Rien ne lui est semblable. Il le dit dans le Coran al-Karim. « Kullu ma khatala fi balika, fallahu bi khilafi dhalika » Tout ce que tu imagines, là, ce n'est pas comme ça. Donc, ce n'est pas la peine d'imaginer. Sinon, vous pouvez dire « Al-adzu an al-idraki idrakul wal-bahthu fi dhati Allahi kufran wa ishrak » Le fait que tu es incapable de penser, Allah subhanahu wa ta'ala pense à ses attributs par son essence, c'est là la vraie croyance. Et le fait de chercher dans l'essence d'Allah Azza wa Jalla, c'est du kufr. D'accord. Donc, ces sectes-là, elles ont, comme vous voyez, leur origine, qui était les causes des premiers, juste après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des gens, ils tirent ces sectes-là, leur origine, des premiers qui ont commencé à perturber la cité musulmane. D'accord. Et à essayer de faire, c'est-à-dire basculer et détruire c'est-à-dire la khilafa islamique qui était déjà à l'époque de Sina Bokasdir, Sina Al-Bakhtab, etc. Mais historiquement parlant, toujours les savants musulmans ont fait face scientifiquement à ces gens-là. Ils ne les ont pas traités de c'est-à-dire de kuffar, etc. Et même le Ghazali, quand il est parti en Iran, tu as 8000, 9000, 10000 personnes qui sortaient du chiisme vers le sunnisme. Quand il débattait avec eux, il connaît le Perse, etc. L'imam Khushayri, rahimahullah ta'ala, à son époque, il y avait plein de khawarij. C'était du côté de Samarkand, etc., l'Asie centrale. Lui, avec ses élèves, c'est un grand ash'ari, un grand soufi. Risale al-Qushayriya, il faut lire. Son livre, il est exceptionnel.
Comment il s'appelle?
Risale al-Qushayriya. C'est un livre par excellence numéro un dans le soufisme.
Al-Qushayriya,
de l'imam al-Qushayri. Risale al-Qushayriya. Imam al-Qushayri.
Il existe en traduction?
Je ne sais pas. Traduction, je ne sais pas. En arabe, il existe, mais traduction, Allahu a'lam. Bon, ça, c'est dans le soufisme, hein. C'est un livre dans le tasawwuf. L'imam al-Qushayri, c'est un grand savant spécialisé en théologie. Je vous ai dit que les sunnites, ils s'appellent les ash'arites et les maturidites, dans la théologie, et dans le fiqh, c'est les malikites, shafi'ites, hanafites, hanbalites. Il a vu de son époque, subhanallah, ils ont fait une fitna, ces khawarij, dans la croyance. Ils ont commis à prendre le pouvoir dans les mosquées, en Asie centrale. Il a écrit ce qu'on appelle Shikayat Ahl al-Zaman. Il a écrit une lettre, il a envoyé l'imam Bayhaq, il l'a envoyé à tous les savants du monde musulman. Cette lettre, on la trouve, l'imam Subki, il l'a ramené dans son livre Tabaqat Shafi'iyya. Il a ramené toute cette risale, elle est exceptionnelle, extraordinaire. On l'a traduit, on peut, inshallah, la ramener, vous donner un exemple. Exceptionnel, elle a dit, attention, il y a une fitna qui se propage dans les mosquées. Une fois, il est rentré dans une mosquée pour dire un dars, ils lui ont dit, alors, comme aujourd'hui, hein, Ar-Rahman Arsh Istawa. Il a commencé à dire Istawa comme Akal, ou Layasai comme Akhtar Bilbal. On dit, toute la mosquée a commencé à dire Qa'id, Qa'id. Il commence à lui dire, non, il est assis, il est assis, il est assis. Et il dit, d'Allah, il est assis. C'est du Mouchabbiha, subhanallah. Et qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'ils étaient majoritaires. C'est, parce que c'est, ces gens de croyance de sectes et groupes égarés. Ça marche au niveau de la masse. Ça marche. Parce que la masse, ce n'est pas des étudiants scientifiques, ce n'est pas scientifique. Ça marche rapidement. Hop, Allah Rahman, il est assis. Khlas. Allah, il est où? Il est en haut. Allez, khlas. Allez, hop. Il a une main, il a un pied, salam alaikum. C'est-à-dire, c'est très facile, ça marche avec eux. Hier, je trouvais un frère, il me dit, posait une question, il m'a dit, Allah, c'est une lumière. Moi, quand je prie, j'imagine une lumière. Je dis, non, il ne faut pas faire ça, mon frère. Comment ça, Allah, c'est une lumière? Tu fais la même chose que celui qui prend un dieu pour une statue. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit de penser comment il est. Il pense à ses attributs. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour vous dire. Donc c'est facile, le message des sectes et des groupes sectes égarés passe facilement au niveau c'est-à-dire de l'âme, c'est-à-dire du commun des gens. Donc c'est l'imam Al-Qushayri, rahmallahu ta'ala, une fois qu'il a écrit à tous les savants de son époque, il a sonné l'alarme. Tous, ils ont pris au sérieux, parmi l'imam Bayhaq et le grand Hafez de son époque, ils ont commencé à écrire, à répondre aux sectes égarées jusqu'à ce qu'elle ait été étouffée leur fitna. C'est une fitna très très forte, jusqu'à ce que l'émir, il est devenu, c'est-à-dire l'émir de la région du Samarkand, etc., il est un parmi eux. Ils ont même tué un grand Ash'ari à l'époque. D'accord. Donc on va se limiter à cela, Inch'Allah. Ce qu'il faut retenir, que la question des Sahaba, il y a eu des désaccords entre les Sahaba, mais qu'on n'a pas le droit d'insulter un Sahabi, ou bien d'attaquer un Sahabi, mais de lire l'histoire, bien sûr, comprendre ce qui s'est passé. Mais il faut faire très attention quand on lit l'histoire politique musulmane. Il faut voir qui est-ce qui écrit. Il faut aller aux références, telles que l'imam Ibn Khaldoun, tels que les livres de Sir, etc. Et les lire à notre chouyour. On a par exemple Cheikh Salem Hassin, Hafidhullah, qui est contemporain. Il a très très bien écrit, mais c'est en arabe. L'imam Maududi, Khilaf al-Mulk. Donc on a des savants sunnites qui ont écrit sur ces questions-là, et qui ont analysé avec, on va dire, de façon juste, d'accord, sans pencher, etc., etc. Par contre, vous pouvez lire à des gens chiites, ils vont introduire des choses graves, d'accord, et que c'est des mensonges, etc., il faut faire très attention. Donc un sunnite, c'est quelqu'un qui n'insulte pas les sahaba, et qui étudie ces histoires-là, et qui les accepte, comme il dit, il ne faut pas le cacher la face, dire non, il n'y avait pas de problème entre les sahaba, c'est des êtres humains, et ils ont eu des problèmes entre eux. Mais qu'on n'a pas apporté jugement sur eux. Rapidement.
Beaucoup dans les histoires musulmanes, où cette partie-là, elle est passée.
Comment ?
La période de la fitna, des fois, c'est-à-dire, les savants, ils n'en parlent pas.
Non, on parle, mais moi, les livres de l'Islam, l'imam Ahmed Amin, ou bien, en général, on la traite. Vous voyez les livres de l'imam Suyuti, il la traite. Peut-être que vous pouvez trouver quelques livres qui sortent pour ne pas... perturber la croyance des musulmans, etc. Ils disent comment ça, les sahaba, ce sont bagailles, machin, etc. Les gens, ils n'ont pas la même foi à comprendre ces choses-là, mais la plupart des livres de référence, ils la traitent. Je vais me limiter à cela. Ranger bien les tables, nettoyer les tables. Assalamu alaikum, la semaine prochaine, inshallah.